Vous êtes sur RTL.
Et le point sur l'info, c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Emmanuel Macron ne prend pas de risque pour remplacer les trois sortants. Il fait entrer des fidèles de la première heure, dont Sibeth Ndiaye qui devient porte-parole du gouvernement. Jusqu'ici, elle s'occupait de la presse.
Amélie de Montchalin et Cédric O participeront également à leur premier conseil des ministres ce matin. Un conseil durant lequel Emmanuel Macron reviendra peut-être sur les tacles qui lui ont été adressés par François Hollande. Ils étaient menés 2-0, ils sont remontés à la vitesse de l'éclair en deuxième période. Lille a battu Nantes hier, les dogs ne lâchent jamais rien. Autre résultat de la 30e journée de Ligue 1, le PSG creuse l'écart en battant Toulouse 1-0.
À 6h20, notez bien, laissez-vous tenter première avec Bernard Lehu et un roman qui colle au doigt, paraît-il, hein, pour tous ceux qui l'ont lu, le dernier Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, un livre très difficile à lâcher. Il y aura deux météos avant 6h30, Marina.
Et du beau temps et de la douceur, encore d'actualité aujourd'hui à Crépy en Valois, dans l'Oise. 20 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Et commençons ce journal par cette info RTL sur une affaire dont nous avons beaucoup parlé il y a 2 ans.
Souvenez-vous, les 4 membres d'une même famille, la famille Troidec, s'étaient volatilisés à Orvault, près de Nantes. Il ne s'agissait en rien d'une disparition. 15 jours après, l'ex-beau-frère du père de famille avouait le quadruple meurtre. Hubert Caouissin expliquait s'être débarrassé des corps après les avoir décapités. Patrice Gabart pour RTL, vous nous révélez que de nouvelles fouilles vont avoir lieu cette semaine pour retrouver les crânes des victimes.
En effet, d'ici 2 à 3 jours, les fouilles vont reprendre à coups de pelleteuse à la ferme du Stang, à Pont-de-Buis dans le Finistère. Les enquêteurs de la police judiciaire, assistés d'un expert anthropologue, vont explorer un nouveau secteur, boisé et marécageux, de cette vaste propriété de 27 hectares. De nouvelles recherches sur les indications fournies par le meurtrier présumé, Hubert Caouissin, lors du dernier transport judiciaire sur place. C'était le 12 mars dernier. Pour les enquêteurs, il s'agit surtout de retrouver les crânes des victimes pour les faire parler. 4 crânes dont le principal suspect affirme s'être débarrassé en premier. Sans plus de précision, maître Cécile de Oliveira, avocate de la famille de Brigitte Troidec, l'une des victimes.
Les crânes qu'on pourrait retrouver, mais que malheureusement, probablement, on ne retrouvera jamais, sont essentiels puisqu'ils raconteraient la manière dont les 4 personnes de la famille de Pascal et Brigitte Troidec sont mortes. Or, à ce stade, on n'a pas l'arme du crime et on n'a pas du tout d'éléments fiables de la bouche de M. Caouissin sur la manière dont ces 4 personnes ont été tuées.
Après ces fouilles prévues sur 2 jours, une reconstitution aura lieu à Orvault dans la nuit du 28 au 29 avril prochain.
Des informations de Patrice Gabart pour RTL. Les réseaux sociaux se sont emballés ce dimanche après la mort d'un jeune homme interpellé au volant d'une voiture vendredi. Ange avait 31 ans. Beaucoup d'internautes et de personnalités comme Omar Sy mais aussi Benoît Hamon se sont émus d'une éventuelle bavure policière. Éventuelle, car une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui pour connaître les circonstances exactes du décès. La préfecture de police, de son côté, a expliqué que le jeune homme avait ingéré une substance non identifiée durant le contrôle. Il pourrait s'agir de cocaïne.
RTL 6h03. Il y a 3 nouveaux visages au gouvernement. Agnès, Emmanuel Macron a pioché dans son premier cercle.
Ce sont des fidèles du président, effectivement, qui participeront à leur premier conseil des ministres ce matin. Cédric O remplace Mounir Majoubi au numérique. Sibeth Ndiaye, fidèle de la première heure, qui s'occupait de la presse jusqu'ici, est la nouvelle porte-parole du gouvernement. Quant à Amélie de Montchalin, elle prend le relais de Nathalie Loiseau aux affaires européennes. La députée macroniste dit être consciente de la tâche qui est la sienne.
Sur beaucoup de sujets, les Français attendent des solutions concrètes. Et mon métier, ou ma nouvelle fonction, ça va être de mettre toute mon énergie à ce que dossier par dossier, eh bien, on avance sur le terrain avec les partenaires européens et qu'on arrive à concrètement montrer que l'Europe apporte des solutions aux Français. L'Europe, c'est une immense aventure, aussi comme un immense défi. L'heure, on le voit avec le Brexit, avec les tensions qui ont pu, ces derniers mois, voilà, naître au sein de la communauté européenne montre qu'il y a énormément de travail à faire.
Ce mini-remaniement, c'est bien le seul sujet dont François Hollande n'a pas parlé. En promotion pour la nouvelle édition de son best-seller, les leçons du pouvoir, l'ancien président de la République se lâche dans les colonnes du Parisien. Ce matin, il tacle sévèrement Emmanuel Macron. À vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté, dit-il. Par ailleurs, selon lui, c'est une évidence, l'extrême droite un jour arrivera au pouvoir en France. Pour en revenir à son successeur, il a recadré les choses en parlant de l'hommage hier en Haute-Savoie. Sur le plateau des Glières, Emmanuel Macron était accompagné de Nicolas Sarkozy.
Moi, je ne sais pas exactement quelles sont leurs relations. Je sais qu'ils se voient assez régulièrement. Peut-être qu'il y a une bonne entente personnelle. ce que je crois surtout, c'est que finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes. Socialement et fiscalement, sur le plan notamment de la lutte contre les inégalités et même pour l'emploi, oui, je pense que ses choix sont plutôt ceux du libéralisme plutôt que du socialisme ou de la social-démocratie que je représente.
François Hollande sur le plateau de nos confrères de France 2 hier soir. Concernant le mouvement des Gilets jaunes, il faut éviter que l'armée soit en contact avec les manifestants, a-t-il dit. Dans une demi-heure, une opération escargot devrait débuter sur le périphérique, aux portes de Clignancourt, Vincennes, celle d'Auteuil également. Les auto-écoles sont en colère contre la réforme du permis de conduire et veulent le faire savoir. 4000 voitures de toute la France sont attendues autour de la capitale. Devant la presse, dans son avion, le pape François a une nouvelle fois défendu le cardinal Barbarin. Il le répète, pas question d'accepter sa démission, car il y a la présomption d'innocence.
Une pause et dans un instant, un club qui a du chien. Incroyable match de Lille hier soir, on en parle. Dans un Lyon, la 30e journée de Ligue 1, le PSG se rapproche encore un peu plus du titre.
La victoire des Parisiens à Toulouse hier soir avec un but d'un certain Kylian Mbappé. Tiens. Paris compte désormais 20 points sur son dauphin, Lille. Et pourtant, les dogs sont toujours enragés. Ils se sont imposés à Nantes 3-2, ou plutôt ont renversé la vapeur en deuxième période. Ils étaient menés par les Canaries 2-0 avant la mi-temps. Le LOSC tient la cadence pour le plus grand plaisir de son président Gérard Lopez.
On a envie de garder cette place, mais c'est pas. Je pense qu'on finit deuxième, troisième, on fêtera quand même. On est quand même hyper heureux d'être là où on est et on sait qu'on est en train de construire l'équipe déjà pour l'année prochaine. Donc c'est une sensation assez agréable. Gagner un match comme ça 3-2 avec 9 journées de la fin, avec la pression d'avoir un point d'avance, c'est pas anodin. Effectivement, ça peut peser positivement sur nous et peut-être un peu négativement sur les autres.
Des propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL. En rugby, la Coupe d'Europe s'est terminée pour le Racing 92, 22-21. C'est donc le stade toulousain qui partira à Dublin à la fin du mois pour tenter de décrocher son ticket en finale. Ce sera face au Leinster.
Une santé de fer. La Tour Eiffel a fêté ses 130 ans hier et pour l'occasion, de nombreux événements étaient organisés à Paris.
Un escape game, un jeu de piste et même une pièce de théâtre. Des acteurs jouaient des scènes qui ont sûrement eu lieu à l'époque de la construction de la Dame de Fer. Si aujourd'hui, on peut imaginer Paris sans elle, cela a pris du temps avant que la Tour Eiffel entre dans le cœur des gens. Au tout début, elle a suscité une énorme polémique, d'où ces dialogues rejoués hier.
Je suis Hermine de Fougeray, baronne. Je suis ici pour l'inauguration de cette tour, que je n'aime pas du tout. C'est laid, ça défigure toute la capitale, n'est-ce pas, monsieur Bourruet?
Tout à fait. Je suis Jean-Claude Bourruet, je suis venu ici pour constater moi-même que la monstruosité, malheureusement, s'est élevée aujourd'hui. Et je l'espère de tout cœur, cette tour va enfin pouvoir être démontée d'ici 15 jours.
Nous avons une pétition.
Elle restera au moins pendant 20 ans. Je suis Jean Compagnon, le contremaître qui s'est occupé de tout ce chantier. Et je peux vous assurer qu'elle est sécuritaire, c'est une avancée technologique et elle est extrêmement esthétique. Les gens s'y habitueront, je vous le promets.
Monsieur, en cette année de 1889, je vous annonce que cette tour ne restera pas sur le champ de Mars. C'est impossible.
Je vous en conjure. Enfin, pourtant, nous qui vivons juste à côté, on ne veut pas garder cette horreur devant nos fenêtres.
Défigurer notre quartier, c'est impossible de rester avec cette chose. Soyons sérieux.
Soyons sérieux, quelle honte, la Tour Eiffel, des propos d'époque, hein, recueillis hier par Benjamin Boucriche. À noter que les comédiens se produisent en ce moment même au théâtre des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon, vous revenez à 7h aux côtés d'Yves Calli. Marina, à tout à l'heure.